raison avec Virginia Woolf. Ce sera 5 moments consacrés à faire entendre une autre Virginia Woolf, une pensée pour aujourd'hui, vivante, insolente, combattante, joueuse. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à ce qui fut la grande affaire de la vie de Virginia Woolf, la grande affaire de l'amitié. Une rencontre avec l'écrivain et scénariste Florence Sevaus. Nous sommes des vaisseaux scellés et pourtant tellement avides de chaleur, écrivait Virginia Woolf. Ôtez-moi mes affections, je serai semblable à une algue que l'on a retirée de l'eau, à une coquille de crabe. Mes entrailles, la moelle de mes os, tout s'écoulera hors de moi. Un souffle suffira à me pousser vers la première flaque et à m'y noyer. Ôtez-moi l'amour que j'ai pour mes amis, l'urgence dévorante qui me jette vers toute vie humaine, ce qu'elle a d'attirant et de mystérieux. Je ne serai plus qu'une fibre incolore que l'on peut jeter au rebut. Le secret de Virginia Woolf est dans ces mots, écrits dans une lettre du 19 août 1930 à son amie Ethel Smith. Écrire aux autres, imaginer sa lettre enfin lue, sauve de la folie et du désespoir. Écrire des lettres, elle en a écrit plus de 4000, et ses lettres en disent long sur sa conception de l'humanité, sur son sens de l'anecdote et du rire partagé, sur son besoin vital d'intimité, si cher payé, nous y reviendrons. L'amitié est au cœur de son œuvre. C'est tellement rare chez les écrivains. Et si elle occupe cette place centrale, c'est pour des raisons éthiques et esthétiques. Alors, avec Florence Sevaus, nous allons nous aventurer sur ce territoire assez mal connu. À travers ses romans et ses scénarios, de Camille Redouble à La Sainte Famille ou au Garçon Incassable, Florence Sevaus explore depuis plus de 30 ans ces gouffres des liens entre les humains, ces mystères de l'amitié. Et c'est une vraie spécialiste de la correspondance, une épistolière hors pair, parce qu'elle a le sens du détail et surtout le sens du temps perdu. Alors l'expérience de l'amitié, Florence Sevaus, pour Virginia Woolf, ça commence très tôt. Ça commence avec sa sœur Vanessa. C'est une histoire d'enfance, mais qui va durer toute sa vie.
Ça commence avec une sorte de... Oui, c'est une rencontre avec sa sœur sous la table. Et c'est une rencontre qui ressemble à un coup de foudre amical, je trouve. Je vous lis l'extrait. Je me souviens de l'immensité et du mystère du pays sombre qui s'étendait sous la table des enfants. Là, je rencontrais Vanessa dans une pénombre cernée par la lumière du feu et peuplée de jambes et de jupes. Nous dérivions de conserves, tels des navires scellés sur un vaste océan, et elle me demanda si les chats noirs avaient une queue. Je répondis non. Il y eut dorénavant entre nous la conscience vague que l'autre offrait d'intéressantes possibilités et que les plus grandes satisfactions viendraient de choses impersonnelles.
C'est formidable.
C'est formidable. Ça me fait toujours un choc, cette expression « vaisseau scellé ». C'est une expression d'une précision et d'une puissance inouïe. Et c'est vrai que, autant Virginia Woolf, avec sa passion de l'intime et son refus de parler sous l'emprise de quelques conventions, elle prend tout le temps des risques, elle se livre, et pourtant, elle sait qu'elle reste, que sa sœur reste, que ses amis restent, des vaisseaux scellés qui naviguent, se croisent, communiquent et pourtant ne parviennent jamais à être saisis par l'autre intimement et en entier. C'est impossible. Même de sa sœur, je crois, elle dit « Que puis-je dire de ma sœur ? Nous ne savons rien de ce que nous aimons. » Et pourtant, elle se lance dans cette passion de l'autre, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une excitation qui n'aura jamais de fin chez elle, la passion de la découverte et de l'observation de l'autre. Et sûrement, on peut dire que ça commence avec Vanessa, parce qu'elle se regarde comme deux personnes qui se découvrent tout à coup et qui ont l'intuition, l'une et l'autre, que tout ce que veut dire l'autre va énormément les intéresser, quel que soit le sujet.
Oui, avec cette différence et cette similitude profonde en même temps, puisque on sait bien que Vanessa peint et que Virginia écrit. Donc pendant toute leur vie, elles s'imaginent l'une et l'autre en train de travailler chacune à son chevalet ou à son cahier, à côté, séparées, radicalement séparées et radicalement ensemble, oui. Ce qui est assez proche de la définition de l'amitié, et ce qui est aussi ce que Virginia Woolf va retrouver en construisant cet univers très spécial qu'est Bloomsbury.
Oui, Bloomsbury, c'est la naissance de beaucoup d'amitiés en même temps. Et certaines vont durer très longtemps. Il y aura aussi la rencontre avec Leonard Woolf. Parmi ces personnes, donc certaines vont rester, d'autres vont disparaître. Mais ce qui ne disparaît pas, c'est la nécessité de l'intensité du lien et de l'intensité de la correspondance.
Ben, ça sert à ça, les lettres, effectivement. Hein. C'est, ouais. Les gens s'échappent, s'enfuient, s'évanouissent, et on les rattrape avec des mots.
Oui, et les amis de Virginia Woolf, ça me fait un peu penser, c'est comme s'il y avait des arbres et une nuée d'oiseaux se pose sur un arbre, mais ensuite, quelques années plus tard, c'est un autre arbre qu'elle va choisir. L'essentiel, c'est la détermination des oiseaux à se poser sur cet arbre-là.
Et à caqueter à ce moment-là, ou à chanter même. Mm. Donc vous nous lisez un extrait de cette description de ses amis.
Alors déjà, en 1927, elle écrit une très belle lettre à Vita Sackville-West, dans laquelle elle lui dit « N'as-tu jamais été frappée de ce que nos amitiés ne sont que de longues conversations, sans cesse interrompues, et pourtant toujours sur le même sujet, selon la personne avec laquelle on se trouve. Avec Lytton, je parle de lecture, avec Clive, d'amour, avec Nessa, des gens, avec Roger, d'art, avec Morgan, d'écriture. Et ce n'est jamais la même Virginia. »
Oui, c'est exactement ça.
Et ça, c'est tellement frappant, tellement... Vrai, il me semble que peu d'écrivains ont fait sentir de cette façon cette capacité que nous avons tous à être autres suivant l'ami en présence de qui nous nous trouvons. Et alors, ses amis, elle adore en dresser la liste et actualiser la liste. Par exemple, en 1922, elle écrit « Admettons que je me les représente, mes amis, donc, comme un groupe de statues de marbre, avec moi au milieu. Et voici que l'un s'approche. » Et qu'un autre roule au loin, Desmond McCarthy a roulé dans un coin. Le marbre de Lytton, lui, est tout proche. Je crois qu'il a décidé, du fait de sa notoriété, de se cramponner à un ou deux rocs et ses amis en constituent un. Je suis en excellent terme avec Clive, avec Mena, avec Marie. Elle ne parle plus de Violet Dickinson. Là, je vous cite Geneviève Brisac dans VW. Elle ne parle plus de Violet Dickinson, ni de Madge Vaughan. Elle se met à correspondre beaucoup avec Vita Sackville-West, avec Mary Hutchinson, bientôt avec Ethel Smith. Certains entrent dans la liste, d'autres en sortent.
Et ça, c'est très beau, je trouve, hein, parce que c'est aussi une façon d'accepter que dans le mouvement de la vie, il y a des moments d'intimité ou d'intensité que les lettres traduisent d'ailleurs, mais qui sont très variables et les interlocuteurs varient.
Oui, et l'intensité se déplace de l'un à l'autre, suivant les moments, suivant... peut-être qu'à un moment, ils se sont rencontrés sous la table et ont eu une conversation du même genre que celle des chats noirs sans queue. Et à ce moment-là, Virginia Woolf est aimantée et cette personne va devenir son correspondant, un de ses correspondants privilégiés pendant des années.
Alors, elle explique très bien que c'est vital. Donc, sans lettre, elle se morfond. Et alors, elle prête à Bernard, dans ce roman sublime qu'est Les Vagues, ce roman choral, elle prête à Bernard, qui est son principal porte-parole d'écrivain, ce texte suivant. « La vérité, c'est que j'ai besoin d'être stimulée par la présence des gens. Tout seul, penché sur mon feu éteint, je vois trop les côtés faibles de mes histoires. » L'être humain parfaitement simple pourrait continuer à imaginer sans fin. Il ne saisirait pas comme moi l'aspect désolé des cendres grises dans un foyer sans feu. On ne referme un volet en plein visage, tout devient impénétrable. Ok, la lettre permet aussi donc de se ranimer, comme on le disait tout à l'heure, de se ranimer au moment où une sorte de solitude désespérée vous éteint, vous transforme en cendres.
Oui, c'est drôle d'ailleurs parce que les lettres de Virginia Woolf à ses amis sont vives, parfois même brûlantes comme du feu. Et on sent qu'elle a autant besoin de lire les lettres de ses correspondants que d'en écrire elle-même. C'est un feu qu'elle a besoin d'entretenir sans cesse. Et vous me proposiez de parler de la convocation du destinataire, parce que j'avais l'image de Bernard devant ce feu éteint et qui, s'il le ranime, arrive à faire apparaître la personne à qui il écrit. Il me semble que dans ses lettres à ses amis, Virginia Woolf rêve d'un fil qui ne serait jamais interrompu. Il y a une phrase qui revient tout le temps et vous en parlez beaucoup dans VW, c'est « écris vite ». Et c'est presque comme si elle rêvait d'atteindre une espèce de flux tendu entre la lettre et sa réponse et la lettre suivante. Et on a le sentiment qu'en écrivant, elle essaye de retenir, de capturer la présence du destinataire. Et tant qu'elle est plongée dans sa lettre, et pourtant les lettres de Virginia Woolf sont comme des... Enfin, c'est comme des journées, c'est très changeant. Il y a des coqs à l'âne, il y a des réflexions très sérieuses, des injonctions, des demandes tout à fait prosaïques. Mais il y a cette espèce d'énergie tout le temps.
C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est les, on voit comment les mots, très concrètement, remplacent les gens, quoi.
Exactement.
En fait, il n'y a pas besoin vraiment de leur corps. Leur chaleur se matérialise à travers des mots et les mots deviennent complètement vivants. De nouveau, Bernard, dans Les Vagues, décrit cette jubilation qui le saisit quand il écrit une lettre. Comme vous le disiez très justement, Florence Evos, écrire une lettre et recevoir une lettre procède en fait un peu de la même chose. Donc Bernard dit la chose suivante, il dit « Au moment où j'aperçois une feuille de papier posée sur la table, je deviens ce personnage hardi, dangereux, méditatif et audacieux qui jette rapidement son pardessus, saisit son porte-plume et trace rapidement sur le papier une lettre d'amour passionnée pour la jeune fille qu'il aime. Et il faut qu'elle pense que ce petit chef-d'œuvre a été écrit sans un moment d'arrêt, sans une rature. » Et ça, c'est vraiment, je trouve, formidable parce que c'est, on sent cette énergie qui jaillit. D'ailleurs, à un autre moment, je crois que Bernard utilise l'image de la théière et de la fumée, qui s'échappe du bec de la théière et qu'il faudrait d'ailleurs bloquer pour garder aussi de l'énergie pour le livre.
Oui, justement, c'est une autre chose qui est frappante, c'est que cette énergie d'écriture qu'il y a dans la lettre, évidemment, c'est la même que celle de l'écriture des livres. Et il y a cette sorte de concurrence entre l'écriture des lettres et l'écriture des livres, des romans. Mais c'est comme si, en fait, l'amitié était, j'ai l'impression, à la fois le carburant de l'écriture et aussi donnait la liberté d'écrire. Parce que dès qu'il s'agit d'écrire un livre, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a l'inhibition, il y a la peur. Mais écrire une lettre, voilà, il suffit, comme le dit Bernard, de ne pas laisser passer l'instant, de l'attraper au moment où elle vous vient, au moment où elle vous arrive. Et à ce moment-là, c'est la même écriture, mais c'est une écriture libre, autorisée, qui fait absolument ce qu'elle veut.
Et alors, ce qui peut parfois les bloquer, ces lettres, c'est ce qu'elle écrit à Philippe Morel dans sa théorie de l'amitié comme incarnée dans les lettres. Hein, c'est quand elle dit que parfois elle a envie de déchirer ses lettres, qu'elle n'est pas sûre que ça soit utile. Parce que ce que vous venez d'expliquer si bien, Florence Sefo, c'est que écrire une lettre, c'est évidemment utile, c'est toujours utile. Il y a un destinataire dont on imagine bien qu'il a envie de la recevoir, la lettre, puisque soi-même on a tellement envie d'en recevoir. Et pourtant, c'est pas si évident que ça. Et c'est ce qu'elle explique à son ami Philippe Morel en 38. Elle dit, parfois comme vous, il m'arrive de déchirer mes lettres. Il est difficile, même à mon âge, de croire que les autres peuvent avoir besoin d'affection ou d'admiration, même si l'on sait pertinemment qu'il n'y a rien de plus important au monde. Mais pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi restons-nous tous muets comme des carpes, paralysés par la stupeur? Pourquoi, comme vous le faites remarquer, vivons-nous à trois rues l'un de l'autre sans jamais nous voir? Je crois que les humains sont fondamentalement écrasés par le sentiment de leur insignifiance. Elle a aussi une conscience dramatique et aiguë, même tragique, je crois, du fait qu'on laisse passer. On laisse passer les amitiés, on laisse passer le temps et on laisse les amitiés se racornir ou s'abîmer.
Oui, et pourtant, ce n'est ni du désintérêt ni de l'indifférence, mais presque une conscience insuffisante de soi.
Oui.
Un oubli de soi-même, un oubli de l'essentiel, une perte de confiance en soi et une perte de confiance dans le besoin que l'autre a de votre présence, de vos mots, de votre affection.
Et donc l'écriture même de la lettre fait disparaître instantanément le doute, quoi.
Oui, ravive tout, c'est comme un feu de joie qui prend en un instant.
Alors ça a commencé très tôt hein, chez Virginia Woolf, cette théorie de la lettre et de ses liens avec l'amitié. Et il me semble que c'est dans la chambre de Jacob, Florence Sevaux, qu'elle en fait la première définition, quoi, finalement.
Oui, il y a un passage vraiment magnifique. Elle écrit « Byron écrivait des lettres, Cowper aussi. Pendant des siècles, le secrétaire a renfermé des feuilles spécialement conçues pour la communication entre amis. Des maîtres du langage, des poètes reconnus se sont détournés de la feuille qui reste pour lui préférer celle qui périt, écartant le plateau à thé, se rapprochant du feu, car les lettres s'écrivent lorsque l'obscurité sculpte une caverne au rougeoiement intense. Et se sont confiés la tâche d'atteindre, de toucher, de pénétrer le cœur d'un individu. Si seulement cela était possible. Mais les mots ont été trop souvent employés, touchés, retournés et abandonnés à la poussière de la rue. Les mots que nous cherchons se cachent près du tronc. Nous venons à l'aube et les trouvons, si doux, à l'abri de la feuille. » C'est vraiment une image magnifique, hein, les mots qui se cachent près du tronc. Et aussi ces lettres qui s'écrivent lorsque l'obscurité sculpte une caverne au rougeoiement intense. Hein,
Oui, il y a ces images de nature qui sont inoubliables, en fait. Elle dit aussi, d'ailleurs, que les lettres arrivent au petit déjeuner. Hein. Il y a tout un truc très joli qui est également dans la chambre de Jacob. Où elle dit, oui, les lettres arrivent au petit déjeuner avec leur timbre jaune, leur timbre vert. Et quand on voit l'enveloppe rédigée de la main de quelqu'un d'autre, on comprend à quelle vitesse les actes se coupent et se recoupent. Et pourtant, certaines lettres ne parlent de pas grand-chose. Elles parlent juste d'un rendez-vous, d'une course à faire, de commander le charbon. Et elle a une très jolie expression, elle dit « Vénérable lettre d'une bravoure infinie, délaissée et perdue. » Il y a quand même une espèce d'amour incroyable de ces lettres. Alors elle pense aussi que les lettres, ça sert à travailler, hein, qu'il y a un travail de la voix.
Il y a un travail de la voix, et comme elle pensait qu'elle misait sur sa correspondance pour être immortelle, et effectivement, elle sentait bien qu'elle travaillait tout le temps en écrivant, évidemment. Et même parfois, je trouve qu'il y a des passages qui ont l'air de toutes petites anecdotes et qui pourtant me paraissent très importantes, comme par exemple la fois où elle dit « Je fais enfin partie de l'humanité qui se poudre ». Parce que tout à coup, une amie lui a offert du maquillage et qu'elle l'a essayé. Et c'est ça qui, le lien avec l'écriture aussi, c'est cette tentative d'attraper le présent, le déroulé du présent, sans le lâcher. C'est comme un but impossible, mais qu'elle refuse d'abandonner. Quoi. Chaque lettre est cette poursuite-là, cette poursuite d'une dilatation de l'instant et du récit du présent de façon instantanée.
Mais comme si on pouvait vraiment attraper la vie,
oui,
et la garder.
Voilà, exactement. Et l'envoyer à son ami.
Telle qu'elle. Totalement. Ouais. Et d'ailleurs, ça marche, c'est vrai.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est une chose dont on ne parle pas assez quand on réfléchit à la modernité de Virginia Woolf, puisqu'on parle le plus souvent de son modernisme, de sa théorie, mais on ne parle pas tant que ça, je trouve, et c'est dommage, parce qu'elle aurait sans doute encore plus de lecteurs, de ce mouvement pour attraper la vie qui fait d'elle le meilleur modèle, la meilleure grande sœur pour tous les écrivains contemporains. C'est vraiment attraper l'instant. Attraper l'instant et arriver à le fixer en le maintenant mobile, justement.
Attraper l'instant et attraper comme un instantané d'une personne, tandis qu'elle est frappée par une émotion, un souvenir. Elle est tellement précise, poétique et intense dans chacune de ses descriptions. Ce sont des phrases qui, en fait, restent gravées presque, je trouve, dans une autre zone de nous-mêmes. On n'a pas toujours l'habitude que les livres se gravent. Une zone très, très physique, comme l'empreinte de la nature ou des saisons.
Oui, très incarnée, effectivement. Et pourtant, vous le disiez, Florence Sevaux, les lettres, justement, dans leur existence même, manifestent une douleur de l'absence. Et parce qu'on écrit quand même aux gens qui ne sont pas en face de vous, a priori. Enfin, ou moi, si on écrit des lettres aux gens qui sont en face de soi, c'est un peu particulier. Donc elle voit aussi la lettre... Enfin, l'amitié est un péril. Enfin, elle risque tout le temps, puisqu'on a déjà évoqué le malentendu. Mais elle prend ça aussi avec un certain humour. Et il y a une lettre que vous vouliez faire partager aux auditeurs, qui est une lettre très, très drôle, où elle écrit à sa sœur Vanessa. On a déjà évoqué tout à l'heure.
Alors voilà, la situation est la suivante. Elle a envoyé à sa sœur Vanessa la promenade au phare et elle attend des nouvelles. Alors elle lui écrit « Ma chérie, aucune lettre de toi. Mais je vois la scène comme si j'y étais. C'est après le repas du soir, Nessa raccommode, Duncan est occupé à ne rien faire. Nessa, elle repousse son ouvrage. Seigneur, j'oubliais ce phare. Je n'en suis qu'à la page 86, et il y en a 320. Impossible d'écrire à Virginia, puisque je suis censée lui dire ce que j'en pense. Duncan. Si j'étais toi, je lui dirais que c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Nessa, elle ne s'y laissera pas prendre. Il ne s'y laisse jamais prendre, tu sais. Elle voudra savoir pourquoi je pense que c'est un chef-d'œuvre. Duncan. Ma pauvre Nessa. J'ai bien peur de ne pouvoir t'être d'aucune aide. Je n'en ai lu que 5 pages. Il n'y a guère de chance pour que j'aie le temps de lire beaucoup ce mois-ci, pas plus que le mois prochain d'ailleurs, ou même, pour tout dire, d'ici Noël.
Nessa, voilà, lettre écrite le 15 mai, hein,
pour préciser. Oui, c'est une lettre du 15 mai. Et je trouve que dans cette lettre, on voit vraiment le goût du risque quand même de Virginia Woolf. Elle n'a pas peur de créer un choc émotionnel à sa sœur. Il y a des amis aussi à qui elle écrit parfois des lettres un petit peu, que je trouve très courageuses.
Oui, kamikazes.
Oui, des lettres kamikazes, exactement. C'est étrange parce que pourtant dans sa correspondance, on sent tout le temps comme un aiguillon, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'absence de l'autre et ce manque permanent qu'elle éprouve. Et pourtant, malgré cette inquiétude qui ne la lâche pas, elle peut prendre le risque d'une rupture par lettre, parce qu'elle refuse absolument de transiger avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle a envie de dire. Il n'est pas du tout question qu'elle prenne des détours, qu'elle prenne des gants. Sinon, écrire n'a plus aucun intérêt.
Et puis je pense que dans cette lettre à Vanessa, donc de 1927, il y a aussi un truc qui est absolument incroyable, c'est qu'on sent que le plaisir d'écrire la scène, c'est-à-dire que le plaisir d'imaginer sa sœur et son beau-frère en train de pas arriver à lire son livre et de se demander comment est-ce qu'ils vont faire et de se dire qu'il faut écrire quelque chose mais qu'ils peuvent pas écrire n'importe quoi parce que ça passera pas, etc., etc. En fait, elle jubile à l'écrire, évidemment.
Ah oui, absolument.
Elle est absolument dedans.
Oui, oui. D'ailleurs, le dialogue dure encore très, très longtemps. Hein. J'en ai lu un peu plus d'un tiers.
Oui, donc on envoie les auditeurs
jusqu'à imaginer que Vanessa se dit, si je lis 10 pages par jour pendant 20 jours, j'en serai à quelle page? Et moi, si je recevais cette lettre, je pense que je serais partagée entre le rire, mais quand même un sentiment de honte. J'aurais un rouge au front.
Est-ce qu'il faudrait commencer à penser, Florence Evos, à la lettre que vous écririez pour répondre, la lettre à la
réponse de Vanessa? C'est pas facile, hein, de répondre à cette lettre.
Alors, il y a une autre lettre très importante qui est la lettre, enfin, qui, puisqu'on a dit qu'écrire des lettres était une manière d'empêcher la perte, la disparition, que les mots permettent de cicatriser la blessure. Mais je crois qu'avoir raison avec Wolf, c'est aussi mettre au centre le sens de l'intime, le sens de la vulnérabilité, le sens de la circulation entre les êtres. Et ce que vous disiez, ce courage qui amène Virginia Woolf à écrire cette dernière lettre, la lettre à Leonard, où elle dit que leur vie a été absolument splendide.
Donc c'est une lettre qu'elle écrit le 28 mars 1941, quelques heures avant de se suicider. Mon chéri, il faut que tu saches que tu m'as rendue parfaitement heureuse. Personne n'aurait pu faire plus. Crois-moi, je t'en supplie, mais je sais que je n'arriverai jamais à m'en remettre et que je suis en train de gâcher ta vie. C'est cette folie qui me reprend. Rien ni personne n'arrivera à me convaincre du contraire. Tu pourras travailler et tu seras beaucoup mieux sans moi. Tu vois, je n'arrive même pas à écrire ce mot, ce qui prouve bien que j'ai raison. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, jusqu'à ce que je tombe malade, nous avons été parfaitement heureux. Et cela, grâce à toi. Personne n'aurait pu être meilleur que tu l'as été depuis le premier jour. N'importe qui en dirait autant.
C'est très beau, hein?
C'est très beau.
C'est très brave aussi. Très courageux, très... Enfin, héroïque, finalement.
Oui, c'est une lettre très... Tout à fait héroïque, parce qu'elle embrasse en quelques lignes extrêmement, extrêmement simples toute une vie, tout leur mariage, sa décision de disparaître. Et il me semble qu'on sent surtout qu'elle est animée par l'unique et profond désir de dire à Léonard, de le consoler, de lui dire qu'il a fait plus pour elle que n'importe qui d'autre aurait pu. Alors qu'elle s'apprête à se suicider, voilà, c'est sa préoccupation, c'est convaincre Léonard de cela.
Donc, une représentation de l'autre à qui on est en train d'écrire, comme elle dit, absolument totale.
Oui. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer la présence pour elle de Léonard au moment où elle écrit, et sa présence à elle au moment où Léonard lira la lettre, alors qu'elle aura déjà disparu.
Merci beaucoup, Florence Evos.
Merci à vous, Geneviève Brisac.
Avoir raison avec Wolf, une série proposée par Geneviève Brisac et réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Prise de son, Jean-Louis Deloncle. Demain, du côté des bêtes et des biographies, avec Catherine Bernard.